10h ici à Washington DC sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous dans ce bulletin d'information. Les 6,5 millions de Burkinabés appelés à voter dimanche ont le choix entre le président Roch Marc Christian Kabore qui vise une victoire au premier tour comme en 2015 et 12 autres candidats d'opposition dont Zéphirin Diabré, chef de file historique de l'opposition, et Eddie Komboigo, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. La sécurité est le principal enjeu de ces élections. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé la stratégie menée par la Russie et la Turquie pour alimenter un sentiment anti-français en Afrique en jouant sur le ressentiment post-colonial. Monsieur Macron insiste sur la relation équitable et le véritable partenariat que la France cherche à mettre en œuvre avec le continent depuis son arrivée au pouvoir en 2017 avec la levée des tabous mémoriels, économiques, culturels, entrepreneuriaux. Il cite ainsi la restitution d'œuvres du patrimoine africain à plusieurs pays comme le Sénégal, le Bénin ou Madagascar, où la fin du franc CFA est un marqueur très symbolique qui alimentait beaucoup de fantasmes et de critiques. Il souligne que sa diplomatie n'est pas cantonnée à l'Afrique francophone et qu'il s'est rendu dans des pays qu'aucun président français n'avait visité. Après s'être notamment rendu au Nigeria, en Éthiopie et au Kenya, il espère prochainement aller en Afrique du Sud et en Angola. 37 personnes ont été tuées depuis mercredi en Ouganda dans les violences déclenchées par une nouvelle arrestation du député et populaire chanteur Bobby Wine, principal rival du sortant Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier qui s'annonce très tendue. Élu député en 2017, le chanteur Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine et souvent très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Museveni. Il a été mercredi arrêté à Jinja, dans l'est du pays, où il faisait campagne pour avoir violé les mesures de lutte contre le coronavirus lors de ses rassemblements, selon la police. Après 2 jours en garde à vue, il a finalement été relâché vendredi après-midi après avoir été inculpé d'actes susceptibles de propager une maladie infectieuse et infraction aux règles sur le Covid-19. Le Burundi a annoncé au secrétaire général des Nations Unies la fermeture définitive à la fin de l'année du bureau de son envoyé spécial dans le pays, prenant le contre-pied de la récente demande d'Antonio Guterres de prolonger son existence d'un an. Dans sa note, le ministère burundais estime que le développement socio-économique est le seul domaine phare qui a besoin d'un accompagnement des Nations Unies au Burundi. Quelques 200 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins des milliers d'Éthiopiens qui se réfugient au Soudan, fuyant le conflit dans la région du Tigré, a indiqué l'ONU aujourd'hui. Ces réfugiés arrivent dans des régions reculées, disposant de très peu d'infrastructures et les besoins sont énormes, selon l'agence onusienne, le ACR. Des centaines de personnes ont été tuées et selon les autorités soudanaises, 36 000 se sont réfugiés au Soudan et évoquent le chiffre de 200 000 de réfugiés éthiopiens si la guerre se prolonge. Le nombre de déplacés en Éthiopie augmente également chaque jour et le manque d'accès aux personnes dans le besoin associé à l'incapacité d'acheminer les secours dans la région reste un obstacle majeur, explique le ACR. Le Vatican a lancé aujourd'hui un appel à libérer les 18 pêcheurs venant de Sicile détenus en Libye depuis début septembre à l'occasion de la journée mondiale de la pêche qui se tient demain samedi. Un tribunal zimbabwéen a ordonné aujourd'hui la libération sous caution d'un célèbre journaliste et lanceur d'alerte zimbabwéen, Hopewell Chinono, arrêté début novembre après un tweet critiquant l'intervention du gouvernement auprès de magistrats enquêtant sur une affaire de contrebande d'or. Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden, dont la victoire a été confortée hier par un recomptage des bulletins dans l'État clé de Géorgie, a dénoncé ce qu'il appelle l'incroyable irresponsabilité du président Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre. Une responsable de la campagne Trump a aussitôt attaqué le résultat. Ce soi-disant recomptage manuel s'est déroulé exactement comme prévu car la Géorgie a tout simplement recompté tous les suffrages illégaux, a dit Gina Ellis, l'équipe de campagne